talmudique. C'est une tradition de consacrer les jours de fête de la Pâque juive aux promenades dans la nature, à la visite de parcs nationaux, de musées et autres lieux patrimoniaux. Je n'ai pas résisté à l'appel de cette belle tradition et, à l'invitation d'une amie, je me suis retrouvé la semaine dernière à Guise, petite ville au cœur du département de l'Aisne, dans les Hauts-de-France, à 190 km de Paris, découvrant avec bonheur et étonnement tout un pan de l'histoire sociale et politique dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Un véritable voyage en utopie concrète qui me fit découvrir le Familistère, un immense projet d'association coopérative construit au milieu du 19e siècle par Jean-Baptiste Gaudin, l'inventeur des poêles du même nom, inspiré directement du phalanstère de Fourier, ce familistère donnait aux ouvriers des usines Gaudin la possibilité de vivre en communauté dans des appartements du meilleur confort pour l'époque. Grandes fenêtres ouvertes sur la campagne, dans toutes les chambres aux vastes dimensions, air conditionné circulant par un système de ventilation d'une modernité écologique étonnante, sans oublier l'eau et les toilettes à tous les étages. Nous étions en 1860. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il y avait non seulement des bains chauds publics, mais que c'est là que fut créée la première piscine municipale de France. Dans cette communauté associative, les enfants étaient scolarisés dès 4 ans et tous étaient invités à l'étude, au sport et aux loisirs, dont particulièrement le tir à l'arc, à la musique et au théâtre. Le bâtiment du théâtre, d'ailleurs, existe encore et est toujours en activité aujourd'hui. Encore habité en partie, ce palais social, dont le plan fut conçu sur le modèle de Versailles, est devenu essentiellement un musée. J'ai particulièrement aimé l'espace intitulé « La fabrique de l'utopie ». Mais quelle ne fut pas ma surprise de découvrir sur une table numérique à côté de multiples objets qui font rêver, un petit glossaire des fabriques de l'utopie, sur 9 mots allant d'anarchie à phalanstère, en passant par communisme icarien, hippie, fouriérisme et libertaire, apparaît au centre de cette liste le mot « kibbutz ». Tout comme dans la chronologie de ces fabriques d'utopie figure la date de 1909, date de la création du premier kibbutz. Voilà, je crois, une entrée en matière particulièrement intéressante pour nous interroger à la fois sur ce qu'est un kibbutz, quelle est sa place dans l'histoire des utopies, et comme l'on dit dans l'Agade de Pessah, Manishtana, quelle est sa spécificité par rapport aux autres expériences communautaristes, quelle est sa présence aujourd'hui dans le paysage social et politique de l'Israël contemporain, et quelle place a-t-il pour les juifs et les non-juifs du monde entier, de quels rêves est-il encore porteur, et vers quel avenir il nous invite aujourd'hui. Pour évoquer toutes ces questions, j'ai le grand plaisir de retrouver Michel Valency, directeur des éditions de l'Éclat, qui viennent de publier un livre essentiel intitulé « Le mouvement des kibbutz et l'anarchie », sous-titré « Une révolution vivante », un livre de James Horrocks, traduit de l'anglais par Philippe Blouin. Les mots sont souvent des pièges, surtout quand ils véhiculent des sens opposés, voire contradictoires. Ainsi, je crois, Michel Valency, qu'il serait bon pour la compréhension de ce livre et la compréhension de ce que représentent les kibbutz, de leur création et de leur histoire, d'insister tout d'abord sur la notion d'anarchie. Un mot que l'auteur introduit dans le titre de son livre, « Le mouvement des kibbutz et l'anarchie ». Anarchie, qui est souvent comprise en relation avec une société sans foi ni loi, souvent synonyme de désordre et de chaos social, alors que c'est aussi un concept politique précis qui a une histoire et de multiples filiations et qui est au fondement de sociétés où ne règne pas le désordre social, mais bien au contraire, en est une forme d'organisation. Michel Valency, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que l'anarchie? Comment et par qui tout a commencé?
Eh bien, l'anarchie, comment ça a commencé? Je pense que c'est vieux comme le monde, l'anarchie, en tout cas, ou alors vieux comme le judaïsme, je ne sais pas si on peut faire ce genre de rapprochement. Bon, l'anarchie, c'est une forme de socialisme anti-autoritaire, anti-hiérarchique, fondée sur des idées de partage, de solidarité, de communauté, de liberté, et où la place d'une structure d'État est la plus réduite et la plus petite possible. Voilà, je crois qu'on peut le définir comme ça. Alors comment ça a commencé? Ça commence, je veux dire, le mot naît au milieu du 19e, je crois que c'est Proudhon qui le prononce ou l'écrit pour la première fois, et il va prendre des formes multiples, je crois. Il va prendre des formes multiples. Et c'est vrai que, quand je dis que c'est aussi vieux que le judaïsme, c'est vrai que le judaïsme a été, enfin le judaïsme qui s'émancipe à la même époque, va croiser et va être aussi inspiré par un certain nombre d'auteurs anarchiste ou relevant de la pensée anarchiste, Gustav Landauer, Kropotkin, qui seront d'ailleurs, et c'est un des éléments qui apparaît dans ce livre, qui seront parmi les premiers textes traduits en hébreu, en Palestine mandataire et même avant, par une société, la société juive de Palestine, qui est une société qu'on peut considérer comme fonctionnant sans État, avec des structures sociales, des syndicats, une organisation du travail, une organisation de la santé, une organisation économique, mais strictement sans État pour les raisons qu'on connaît, puisque l'État n'est créé qu'en 48.
Vous voulez dire que le concept d'anarchie, dans ce sens positif et constructif, est arrivé dans le monde juif par des auteurs comme Landauer et Kropotkin. Alors Kropotkin, est-ce qu'il était juif? Parce que pour moi...
Non, c'est un prince russe.
Un prince russe, voilà, alors oui, j'ai lu quelque part qu'il parlait le yiddish parfaitement.
Ah ben oui, non mais c'est vrai aussi que c'est un très grand nombre de juifs qui s'émancipaient, ont participé à ces mouvements. Il y a une presse anarchiste en yiddish, il y a un personnage, Rudolf Rocker, qui n'est pas juif, mais qu'on appelle le rabbin anarchiste, mais qui a appris le yiddish, qui s'est battu aux côtés des ouvriers juifs d'Angleterre. Ces mondes-là vont vraiment se croiser, se rencontrer, et ils vont se rencontrer partout sur la planète, c'est-à-dire que ce soit aux États-Unis, que ce soit même en Argentine, où des communautés yiddishophones anarchistes vont se créer dans la Pampa.
Et on avait parlé dans une des émissions.
Oui, enfin, c'est vraiment une rencontre...
Essentiel, parce essentiel que et riche, ça a déterminé l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Mm-hmm. Alors, comprendre le sionisme et la création du kibboutz, c'est comprendre ce qui fut à l'origine de la migration et de l'émigration des Juifs à la fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle. Migration et émigration dans le monde entier et en direction de la terre d'Israël. Le rôle de l'antisémitisme russe joue ici un rôle fondamental qu'il est très important de ne pas oublier, Michel Valensi.
Alors, ça, c'est une grande question. Il ne fait pas de doute que les aliotes, c'est-à-dire
les montées vers
la terre d'Israël, alia, aliot, l'antisémitisme qui sévit en Russie ou qui sévit en Europe est un moteur de ces montées. Mais je crois que bon, la première alia à la fin du 19e est essentiellement due à ce phénomène-là, même si les montées en Israël, ça remonte à bien plus longtemps que ça. Yehuda Halevi, au XIIe siècle, fait son alia et il meurt devant les montagnes de Béthère. Donc c'est vrai que l'élément de l'antisémitisme comme poussé vers la montée vers la terre est un élément. C'est très intéressant de dire que ce n'est pas tant l'antisémitisme qui va susciter ce retour vers la terre d'Israël, mais une véritable émancipation des Juifs d'Europe et d'Europe centrale, qui, au contact des mouvements révolutionnaires, qui au contact de la Haskala, de tous ces mouvements de connaissance, vont arriver à cette idée d'un peuple qui, à un moment donné de son histoire, doit y retourner. C'est la définition de Scholem qui définit le sionisme comme un retour utopique du peuple à sa propre histoire. Le droit d'un peuple à disposer de lui-même sur une terre qui a été la sienne et à laquelle il revient. Voilà. Et donc, cette idée d'émancipation comme moteur de l'alia, je crois que c'est là où on retrouve les liens entre ce qu'a pu être le sionisme et des mouvements anarchistes révolutionnaires.
Mais s'il n'y avait pas eu les pogroms de la fin du 19e siècle, terribles, les pogroms du début du 20e, peut-être qu'il y aurait eu une idéologie sioniste sans un passage à l'acte, si on peut dire, vers ce retour véritablement et cette installation dans la terre d'Israël.
Oui, non, mais c'est tout à fait possible. Enfin, je dis qu'il y a les deux mouvements, si vous voulez. La première lia qui est vraiment due au grand pogrom russe de la fin du 19e, on considère qu'il y a à peu près 20 000 juifs qui quittent la Russie à ce moment-là. Et qui vont, où est-ce qu'ils vont? Ils vont pour une grande partie aux États-Unis d'Amérique. Sur ces 20 000 juifs, il y a quelques centaines seulement de juifs russes survivants, bien entendu, parce qu'il faut, s'il y en a 20 000 qui partent, il y en a peut-être autant, peut-être pas autant, mais une grande partie qui sont tués. Mais sur ces 20 000 juifs qui partent de Russie, il y en a à peine une centaine qui va se rendre en terre d'Israël. Donc c'est pas un, enfin je veux dire, ce mouvement vers la terre d'Israël, il est aussi suscité, je crois, par cette population émancipée, cette population qui veut créer un monde nouveau, véritablement. Et je crois que c'est ce qui fonde le sionisme et ce qui fonde la présence du peuple juif sur la terre d'Israël à la fin du 19e et au bout du 20e siècle.
Et alors, quelle est l'importance des idéologues de cette époque, c'est-à-dire que vous avez cité Landauer et Kropotkine?
Alors, c'est des auteurs qui sont lus, qui sont extrêmement importants, lus, traduits, traduits en hébreu, traduits en yiddish. Bon, Landauer est un personnage qui, même dans le monde de l'anarchie, a un statut un petit peu à part. Hein. Sur la question de l'État, par exemple, Landauer n'est pas du tout pour une suppression de l'État. Il est pour une gestion, finalement, de l'État par l'homme, par le peuple. Et donc, là-dessus, il est plutôt, enfin, il sent un peu le soufre pour les anarchistes eux-mêmes. Donc, c'est déjà compliqué. Et Landauer, il y a toute une, dans sa pensée, il y a toute une idée de la spiritualité. Enfin, c'est quelqu'un qui est aussi issu du monde juif, qui va aussi développer une recherche sur la colonie agricole, comment vivre en communauté agricole, avec cette idée du retour à la terre qui est aussi fondamentale du retour à la terre d'Israël et du sionisme. Et Landauer, qui sera un des ministres de l'instruction de la République de Bavière avant d'être assassiné sauvagement par les soldats en 1919. Landauer va être approché par Naum Goldman, par exemple, de l'Organisation sioniste mondiale, qui lui posera des questions en lui disant « On est très intéressé par vos théories, on aimerait bien savoir comment est-ce que vous allez pouvoir nous aider. » Et Landauer lui-même y répond et se propose d'ailleurs d'assister à d'une des grandes réunions de l'Organisation mondiale sioniste mondiale. Malheureusement, il sera assassiné avant. On a d'ailleurs, à la fin du volume de James Horrocks, Horrocks a publié donc un extrait de la correspondance entre Naum Goldman et Landauer. Landauer était l'ami intime de Martin Buber, qu'il rencontre en 1900, enfin un peu avant. Et Buber sera son exécuteur testamentaire. C'est Buber qui a vraiment fait énormément pour que cette œuvre soit diffusée, connue, publiée, etc. quoi. Y compris dans le Yishuv juif de Palestine.
Глазами, проводим глазами.
chant hébreu Hava Nagila Hava, qui fut composé par Avram Tzvi Delson, musicologue né en Lettonie en 1882. Il fut certainement beaucoup chanté, ce chant, par les fondateurs du premier kibboutz en 1909, le kibboutz de Gania, sur la rive est du Jourdain, créé par un groupe de 12 personnes à l'origine. Alors, je dois dire que pour les puristes hébraïques qui n'ont pas reconnu l'hébreu dans les paroles qui sont chantées ici, c'est que ce Hava Nagila Hava est très célèbre, mais là il est chanté par les chœurs de l'Armée Rouge qui, enfin moi j'ai trouvé ça, et vous aussi, tout à fait intéressant que ça soit ces chœurs de l'Armée Rouge qui le chantent. Alors ma question c'est, quelle est l'importance de ce premier kibboutz, Michel Valency? Quel fondement va-t-il mettre en place et qui vont devenir le socle de tous les kibboutzim à venir, au point d'être appelé ce kibboutz la mère de tous les kibboutzim?
Alors Degania, effectivement, un kibboutz qui est créé en deux temps. D'ailleurs, James Rock s'en parle très bien. Il y a un assez long chapitre sur Degania. Bon, il est créé à partir d'une première communauté, d'une première kvoutsa petite. Ce sont des immigrants qui viennent donc de Russie, tous très jeunes, célibataires, hommes et femmes, hein, mélangés, qui ne sont pas du tout satisfaits de la manière dont la terre est exploitée par les immigrants de la première alia. Ils se demandent si venir sur cette terre pour reproduire les schémas classiques de ce qu'a pu être l'exploitation des terres en Europe était a un sens. Pour eux, il y a vraiment l'idée de création d'une société nouvelle avec des relations complètement nouvelles, complètement neuves, et d'un homme et d'une femme nouvelle. C'est ce que dit Uri Gordon dans la préface du livre de Horrocks dans la version anglaise qu'on n'a pas reproduit dans ce volume. Il disait « Était en jeu alors rien moins que l'opportunité de transformer la mobilisation juive autour de la Palestine en un projet de libération sociale de tous les peuples et qui n'aurait pu voir le jour que sous la bannière d'un socialisme sans État. » Et les premiers kibboutznikim de Degania sont portés par la pensée anarchiste. Ils disent Kropotkin, ils disent Landauer. Et il y a ce partage de tout. Bon, on a beaucoup parlé de Degania. Il y a eu un magnifique reportage dont j'ai oublié le titre il y a quelques années, où on interrogeait les gens de Degania et ils racontaient comment, quand quelqu'un recevait une lettre, par exemple, bon, d'abord tout le monde devait la lire. Et si cette lettre apportait la joie, donc le destinataire était joyeux, alors tout le monde devenait joyeux. Et si cette lettre apportait la peine et que le destinataire pleurait, alors toute la communauté pleurait avec lui. Donc il y a une vraie osmose comme ça de ces fondateurs de Degania. Donc ces gens vont quitter les moshavim qui étaient donc les fermes agricoles avec un mode de fonctionnement traditionnel qui fonctionnait beaucoup sur la philanthropie, vont quitter ces structures-là pour créer leur propre ferme, leur propre kvoutsa dans un territoire pour le moins hostile, parce que les bords du lac Tibériade au début du XXe siècle, ça n'est pas comme aujourd'hui. Moustiques, malaria, chaleur atroce. Et ils ont construit là, ce qu'on connaît, c'est-à-dire, bon, ils ont construit là un lieu de vie avec toutes les difficultés que ça peut supposer, qui s'est développé, qui a servi véritablement, oui, de modèle. Et Degania a fait des enfants. Hein. C'est une mère, donc elle a eu aussi des enfants. Et donc c'est à partir de Degania que le mouvement des kibboutz va se développer et s'élargir sous des formes diverses. Mais là, on part d'un kibboutz totalement rempli de judaïsme, mais d'un judaïsme émancipé ou émancipateur, quoi. Et dans ce paysage, il y a une figure extrêmement importante, c'est la figure de Gordon, donc qui est un penseur qui est vraiment pour une idée du retour à la terre, un retour à la nature, un travail de la terre, enfin la nécessité d'une émancipation à travers le travail de la terre, un respect de l'écologie au-delà de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment, Gordon est quelqu'un d'extrêmement important. Il a laissé aussi une œuvre extrêmement importante, qu'on peut accuser aujourd'hui d'une sorte de romantisme. C'est vrai qu'il y a un romantisme chez Gordon, mais qui est un romantisme ancré dans la terre, que peu de penseurs contemporains peuvent aujourd'hui, je crois, comprendre. Et du coup, on l'accuse d'une sorte de dérive naturiste.
Alors, lisons-le d'abord.
Voilà, oui, je crois, oui.
Et vous parlez de... Alors, il y a plusieurs mots en hébreu qu'il faut peut-être éclaircir. Vous parlez de kvoutsa, qui veut dire le groupe.
Oui.
qui est un mot un petit peu différent du mot kibbutz. Kvoutza, c'est le groupe de personnes, la kvoutza, alors que le kibbutz va devenir le terme donné à cette ferme agricole.
C'est la ferme agricole.
Dans laquelle tout le monde va travailler à égalité, sans hiérarchie, de manière anarchique dans le bon sens du terme. Alors les kibbutzim vont évoluer à la fois idéologiquement et dans leur pratique. Pourquoi considère-t-on que la troisième alia, c'est le troisième groupe de personnes venues en Israël, serait celle qui a accompli la révolution au cœur du kibbutz?
Eh ben, il faut voir la date. La troisième alia, 1919-1923. 1919, on est donc après la Première Guerre mondiale. Et on est surtout après un autre événement qui a lieu en 1917 et qui est la révolution russe.
Et la déclaration Balfour.
Et la déclaration Balfour à quelques jours d'intervalle, comme le rappelle Dominique Bourrel dans une excellente préface à un livre dont vous parlerez prochainement. Ce qui est assez étonnant, je crois, à trois jours près. La troisième alia, elle est porteuse, et là, de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire elle est porteuse vraiment de cet élan émancipateur. Les jeunes qui arrivent en Eretz Israël et dans le Yishuv à ce moment-là viennent vraiment porté par ce mouvement émancipateur et révolutionnaire qui se répand dans l'Europe à ce moment-là, que ce soit en Allemagne, que ce soit en ce qui est devenu l'Union soviétique. Et ils vont, arrivant dans le Yishuv, ils vont appliquer ces schémas, ils vont transformer le kibbutz en véritable société communiste. Enfin, je veux dire, l'importance du parti communiste même est importante à ce moment-là, même si les termes sont toujours un peu plus vagues. C'est le moment où va naître aussi le grand syndicat, la Histadrout. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un moment où la terre d'Israël avec sa population juive va suivre le mouvement des élans révolutionnaires de l'Europe occidentale. C'est-à-dire que le kibbutz était annonciateur finalement dans sa microstructure de vie communautaire, de partage absolu, d'économie participative. Enfin, je crois que vous employez le mot efficacité sans coercition. C'est vrai qu'il y a aucune contrainte. On n'est pas obligé d'aller travailler. Enfin, Orok s'en parle très bien. Je crois qu'il y a deux longs chapitres sur le mode de fonctionnement des kibbutz à ce moment-là, et on voit bien comment cette société se construit. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que les membres des kibbutz ont une méfiance absolue à l'égard des ismes. Vous leur dites communisme, ils savent pas s'ils sont communistes. Vous leur dites anarchisme, ils savent pas s'ils sont anarchistes. Ils sont les porteurs d'un monde nouveau. C'est du nouveauisme, peut-être.
Le nouveauisme. Alors, les grands principes du kibbutz sont l'économie participative, on vient d'en parler, l'administration sans l'autorité, l'efficacité sans coercition, la consommation dans la commune, le système de non-gouvernement, qu'on appelle l'ACFA,
c'est la réunion, enfin, il y a la réunion hebdomadaire où on discute de tout.
Voilà, c'est une sorte de parlement anarchiste. Voilà. Il y a l'éducation. Alors, je me suis demandé, n'y a-t-il pas un paradoxe intéressant dans la société israélienne très marquée par la hiérarchie de l'armée actuellement et la dimension anarchique au sens où nous l'avons définie? Question d'autant plus remarquable que les officiers de l'armée furent pendant très longtemps et en grand nombre issus de la société des kibbutzim. Michel Valency.
Ben, on l'a peut-être dit beaucoup. Israël est quand même une terre de paradoxes. Disons que ça fait partie des paradoxes de cette terre. Ce n'est pas le seul paradoxe de cette terre. Et c'est vrai que comment est-ce qu'on arrive à concilier l'armée de défense et le kibbutz? Bon, c'est un pays effectivement où s'invente une société nouvelle, mais c'est un pays qui est en guerre. Et donc, si ce pays est en guerre, il doit créer une structure de défense. Et Tsahal, bon, c'est toute l'idée d'une armée de défense, essentiellement, avec une éthique. Et on voit comment cette armée, même si elle est hiérarchisée, maintenue dans sa rigueur militaire, est une armée qui est aussi souvent ébranlée. Ne serait-ce que très récemment par des mouvements de soldats qui refusent de servir en Cisjordanie. Il y a ce mouvement qu'on appelle Ometz Lesarev, qui est le courage de refuser, et dont il est même question dans ce livre, parce qu'en fait beaucoup des gens qui partent de ce mouvement sont issus des kibbutz. Et il y a cette idée, enfin je vais vous lire une toute petite lettre qui est citée en note. Le soldat donc qui fait partie de ce mouvement Ometz Lesarev dit le refus de servir dans les territoires, c'est le sionisme. Alors, bon, ça, c'est, je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut arriver à affirmer et arriver à comprendre. Aujourd'hui, dans la confusion totale qui est entretenue sur cette question, c'est strictement incompréhensible pour nos oreilles européennes. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Et que dans cette incompréhension s'engouffrent les pires absurdités et les pires analyses dont on essaiera de ne pas parler trop aujourd'hui. Mais je crois que c'est vraiment, enfin, c'est important de voir comment cette armée, qui est une armée de défense, est aussi à l'intérieur de cette armée. Je dis pas tout le temps, bien entendu, mais elle peut être ébranlée dans ses fondements hiérarchiques, dans ses fondements autoritaires, et toujours, par une population qui le fait au nom du sionisme.
Et toujours porteuse d'une éthique très très sérieuse.
On le souhaite de tout notre cœur.
Alors, le kibboutz réserve beaucoup de surprises et invite à sa façon à revisiter l'histoire, dont certains pans sont parfois oubliés. J'ai ainsi découvert qu'un kibboutz avait été créé à Jujal Nazareth, en Corrèze, en 1933, par des jeunes juifs fuyant l'accession d'Hitler au pouvoir, une ferme-école dans laquelle les jeunes se préparaient au travail agricole en vue de leur émigration en Eretz Israël, comme on disait à l'époque. Tout comme j'ai découvert, et justement au Familistère de Guise, que des survivants de Buchenwald avaient créé le kibboutz Buchenwald. Dans un article important intitulé « La reconstruction des identités juives dans les camps de personnes déplacées d'Allemagne » de Françoise Houzon, je cite, en 1945, 16 jeunes rescapés du camp de concentration de Buchenwald eurent l'idée d'établir un kibboutz en Allemagne qui préparerait les juifs libérés à s'installer en Eretz Israël. Ce premier groupe de 16 jeunes hommes atteignit une ferme à 30 km de Buchenwald et prit la responsabilité des champs de blé et de grains, des brebis, des chèvres et des chevaux. Et elle dit, le kibboutz Buchenwald incarnait bien le rêve partagé des survivants et comblait le fossé entre les pertes du passé et les espoirs comme les défis du futur. La structure même du kibboutz aida à faire ressurgir chez ses membres le sens de la valeur de l'individu que les nazis avaient foulé aux pieds. Et je me suis dit que là, nous avons une étonnante expérience, Michel Valency. Je crois que cela dit quelque chose de la puissance cathartique du kibboutz, au-delà de l'aspect purement matériel de son organisation, ce que l'on retrouve d'ailleurs dans le témoignage de nombreux volontaires juifs et non-juifs qui viennent passer quelques semaines ou quelques mois au kibboutz.
Oui, je crois que c'est une expérience déterminante pour tous ceux qui y sont passés. Alors, ce qui est intéressant, c'est vrai que c'est un... Bon, le kibboutz a eu une époque florissante. Il a subi, à partir de 1977, c'est-à-dire avec la victoire du Likoud aux élections, qui est un séisme politique en Israël, il a subi les assauts d'une économie qui devient une économie de plus en plus libérale. Buber disait en 45 que le kibboutz, c'était un non-échec. Oui, c'est un non-échec. En 45, c'est un non-échec. On peut dire qu'à la fin des années 80, le kibboutz n'est pas un échec, c'est une défaite. C'est une défaite d'un mode de vie nouveau face à le bulldozer d'une politique mondiale fondée sur le profit, l'autorité, la hiérarchie, etc. Mais ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que l'île de Rocks est important, c'est qu'il montre comment aujourd'hui, alors qu'on peut considérer que le kibboutz n'existe plus, enfin, ou alors, en tout cas, il survit comme il peut, alors qu'il a représenté une part de l'économie extrêmement importante en Israël, alors que donc il n'existe plus, surgissent ici et là des formes nouvelles de kvoutzot, de kvoutza, de petites kvoutza, qui sont des kibboutz urbains, créés par des jeunes qui ont quitté les kibboutz traditionnels et qui essayent de réinventer des modes, enfin, de ne pas reproduire les erreurs qui ont pu être celle de leurs parents, c'est-à-dire une sorte de culte de la communauté. Les kibboutz urbains ou les petites communautés qui se créent aujourd'hui sont nourries de ces erreurs, mais essayent de créer quelque chose de véritablement nouveau. C'est microscopique, mais c'est naissant, et on espère que ça renaîtra.
« Merci Michel Valency à la fois pour cette conversation que j'ai trouvée passionnante et trop courte, et pour ce nouveau livre que vous venez d'éditer dans vos éditions de l'Éclat, dont je rappelle le titre et l'auteur, Jemtz Oroks, le mouvement des kibbutz et l'anarchie, sous titre Une révolution vivante. La semaine prochaine, je recevrai Dominique Bourrel pour évoquer avec lui Communauté, un livre de Martin Boubert dont le sujet est connexe avec tout ce que nous avons vu aujourd'hui, donc affaire à suivre. Encore merci Michel Valency.
Je vous remercie.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wachnin et Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Bernard Laniel, à la réalisation Pierre Villers. Vous retrouverez tous les détails concernant notre invité, la maison d'édition de l'Éclat et le livre de Jemtz Oroks sur le site de l'émission. Kol Touv, Le Yitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.